Europe 1, le 22-22-30,
Simon Rubin.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Ensemble, on va faire le tour de l'actualité de la journée. Ravi de vous accompagner ce soir. On embrasse d'ailleurs au passage Julien Pierce que vous retrouverez dès lundi. Il est 22h sur Europe 1.
Nous rétablirons un couvre-feu dès 20h. Ce couvre-feu concernera aussi le réveillon du 31 décembre.
Face à la menace d'une troisième vague, le gouvernement pied sur le frein. Les assouplissements attendus sont moins nombreux pour les fêtes de fin d'année. Le réveillon de Noël est sauf, mais vous l'entendez, le nouvel an a du plomb dans l'aile. Tout le détail des mesures annoncées ce soir dès le début de ce journal. Bonne nouvelle pour l'Europe, le plan de relance massif enfin adopté par l'Union. En revanche, les négociations autour du Brexit s'assombrissent encore après les déclarations de Boris Johnson ce soir. On va en parler avec notre correspondante à Bruxelles, Isabelle Horry. La mère de la petite Fiona, disparue en 2013 à Clermont-Ferrand, continue de nier avoir donné les coups mortels et elle refuse ce soir toujours de dire où se trouve le corps de sa fille. Et puis un footballeur français engagé contre l'extermination des Ouïghours en Chine, Antoine Griezmann prend position et met fin à son contrat de partenariat avec le géant chinois de la téléphonie Huawei. Après ce journal, la météo complète d'Anissa Haddadi et puis l'actualité boursière et financière ce soir avec Didier Hamaud de boursier.com et l'invité éco d'Emmanuel Duteil ce soir, Cédric Lagarigue, expert en jeux vidéo à la banque d'affaires Alentra. Ils parleront d'un jeu qui vient de sortir après 8 ans de travail qui s'annonçait comme une petite révolution, Cyberpunk 2077, un jeu presque trop énorme pour les machines actuelles. Voilà le programme, bienvenue dans votre journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Pas de réveillon du nouvel an, annonce ce soir de Jean Castex. Dès mardi prochain, instauration d'un couvre-feu de 20h à 6h du matin. Ça complique effectivement le nouvel an. Pendant la journée, aucune attestation ne sera en revanche obligatoire. On va revenir dans un instant sur le détail de ces annonces. Mais d'abord, je vous propose de l'écouter, Jean Castex, le Premier ministre, qui s'exprimait ce soir à 18h.
La situation sanitaire s'est considérablement améliorée au cours des dernières semaines. Mais elle marque le pas depuis quelques jours. Nous sommes sur une sorte de plateau. Le nombre de nouvelles contaminations ne se réduit plus et il tend même à légèrement réaugmenter depuis quelques jours. La partie est donc loin d'être gagnée.
Jean Castex, le Premier ministre, la partie est loin d'être gagnée, dit-il. Jean-Rémy Baudeau du service politique est avec nous. Alors, Jean-Rémy, vous y étiez à cette conférence de presse de Jean Castex. Avec vous déjà, on va quand même rappeler les trois points principaux à retenir.
Oui, Simon, face à une situation sanitaire moins bonne que prévu, le Premier ministre a annoncé de nouvelles mesures et, disons-le, de mauvaises nouvelles pour les Français qui espéraient regagner un peu de liberté. Alors le principal point, c'est la prolongation de 3 semaines de la fermeture de ce qu'on appelle les établissements accueillant du public. Ça veut dire que les théâtres, les cinémas resteront fermés 3 semaines de plus, réouverture désormais envisagée le 7 janvier. Une mesure qui concerne aussi les musées, mais aussi les enceintes sportives, les casinos, même les zoos. Les conditions ne sont pas réunies pour une réouverture, a martelé Jean Castex. Autre point important, le deuxième, le couvre-feu. Il sera bien mis en place le 15 décembre, mais à partir de 20h. Et là aussi, c'est plus restrictif que prévu. Le bon côté, c'est que la fin des attestations de déplacement avant 20h. Et puis, il nous reste la dernière annonce, la plus attendue, les fêtes. Une dérogation a été annoncée pour le soir de Noël, mais pas pour le réveillon. Il y aura bien un couvre-feu pour le réveillon. On sait que le gouvernement craint beaucoup la Saint-Sylvestre.
Nous rétablirons un couvre-feu dès le 15 décembre. Il débutera dès 20h. Il sera strictement contrôlé. Ce couvre-feu concernera aussi le réveillon du 31 décembre. Ce réveillon est en effet un moment traditionnellement festif, mais il concentre tous les ingrédients d'un rebond épidémique.
Et Jean-Rémy, il n'y avait pas de bonne solution. Il n'y avait pas de choix facile, c'est le moins que l'on puisse dire. Là, au moins, le président et le Premier ministre ont tranché.
Oui, c'était compliqué. Hein. Le sujet, il n'est pas que sanitaire, il est très politique. En arrivant aujourd'hui à Bruxelles, Emmanuel Macron avait rappelé que l'objectif était que l'épidémie ne reparte pas. Mais dans l'entourage du président, on met en avant la nécessité de faire preuve de cohérence. En gros, le sanitaire prime. L'exécutif, bien conscient que les Français sont de plus en plus lassés par les contraintes. Mais voilà plusieurs jours que l'exécutif semblait préparer les esprits à un déconfinement plus restrictif de prévu. Eh bien, les annonces de ce soir sont allées même un petit peu au-delà des prévisions.
Jean-Rémy Bodo en direct, journaliste au service politique d'Europe 1. Merci. Et ces annonces sont évidemment un coup dur pour les établissements culturels. On en parlait, cinéma, théâtre, musée, qui espéraient rouvrir dès mardi. Tout le monde, en vérité, se préparait en coulisses. Et là, c'est la douche froide. Il faudra encore patienter à minima 3 semaines supplémentaires. Écoutez, Richard Patry, il est le président de la Fédération nationale des cinémas français et il est effondré.
Je suis un peu consterné, vraiment, vraiment consterné, quasiment révolté, quoi. Je ne peux pas me résoudre à ce que le gouvernement ait pris une telle décision. C'est totalement incompréhensible, ça correspond à rien. Enfin, voilà. C'est-à-dire, le Premier ministre nous dit « Oui, je suis bien conscient qu'il n'y a pas de risque dans les salles de cinéma et qu'ils adoptent un protocole sanitaire absolument impeccable, mais je ne les réouvre pas. » C'est immensément injuste parce que ça méprise les artistes, les techniciens, les distributeurs de films, les exploitants, mes collègues, qui avaient tout fait pour être capables de réouvrir et réilluminer les écrans, comme l'a dit le Premier ministre, en cette période de vacances. Donc voilà, c'est-à-dire que nous sommes les sacrifiés, la culture.
Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas français, joint pour Europe 1 par Angèle Châtelier. On le rappelle, prochain réexamen des conditions de réouverture, ce sera le 7 janvier prochain. D'ici là, des opérations de dépistage massif vont être organisées du 14 au 19 décembre au Havre et à Charleville-Mézières et puis en janvier à Roubaix et Saint-Étienne. La commission d'enquête du Sénat, elle, rendait son rapport aujourd'hui sur la crise du Covid et elle pointe la responsabilité du numéro 2 du ministère de la Santé, Jérôme Salomon, dans la pénurie de masques. Les sénateurs révèlent que la Direction générale de la Santé a fait modifier un rapport scientifique a posteriori pour justifier sa décision sur le non-renouvellement du stock de masques. Aucune pression n'a été exercée pour modifier un rapport d'experts, se défend ce soir la Direction générale de la Santé.
Europe 1, Simon Rubin.
Ça y est, enfin, feu vert ce soir pour le grand plan de relance européen post-Covid. Et on en parle ce soir avec vous, Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Isabelle, ce plan, c'est du jamais vu, concocté, on s'en souvient, au printemps par les Européens. Eh bien, il va pouvoir enfin être mis en place.
Oui, les 27 chefs d'État viennent de lui donner leur feu vert définitif lors de leur sommet à Bruxelles. Il faut se souvenir d'à quel point ce plan est historique. Ces dernières semaines, les négociations épiques, les obstacles l'ont un peu fait oublier. C'est un plan à 750 milliards d'euros basé sur un emprunt sans précédent qui symbolise une solidarité inédite. La Commission européenne va emprunter sur les marchés au nom des 27. Une grande partie des fonds sera distribuée directement aux États pour les aider à relancer leur économie. La France attend 40 milliards d'euros pour financer par exemple la transition écologique, de l'argent qu'il ne faudra pas rembourser. Ce plan, c'est Paris qui en a eu l'idée, c'est le revirement de Berlin qui a permis qu'il se concrétise. Angela Merkel et Emmanuel Macron en avaient présenté les grandes lignes en mai. Ce soir, le président de la République salue une Europe qui avance unie.
Et puis Isabelle, ce soir, il y a aussi l'ombre du Brexit qui plane au-dessus de ce sommet européen, avec notamment cette dernière sortie du Premier ministre britannique Boris Johnson sur les négociations commerciales post-Brexit, des négociations qui pourraient fort probablement échouer, dit-il.
Oui, tout à l'heure, un diplomate français a refusé de commenter cette interview en disant « pas de commentaire, je préfère parler du plan de relance ». Le Brexit n'est pas officiellement à l'ordre du jour ici, mais tous ont conscience que l'heure est grave. Boris Johnson semble préparer son opinion publique à une sortie sans accord. Il évoque la forte possibilité d'une relation à l'australienne avec l'Union européenne. Or, les 27 n'ont justement pas d'accord de libre-échange avec l'Australie. À Bruxelles aussi, il flotte un certain pessimisme. Le dîner d'hier entre Johnson et von der Leyen a confirmé l'ampleur des divergences. Tout le monde se dit qu'il faudrait un miracle pour qu'il y ait une ouverture dans les derniers jours de négociation.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. La décision dans le procès de Nicolas Sarkozy, c'est l'affaire dite des écoutes, est mise en délibéré au lundi 1er mars, 13h30, annonce ce soir du tribunal correctionnel de Paris. Une audition très attendue aujourd'hui au procès de l'affaire Fiona, qui avait bouleversé la France. Vous vous en souvenez peut-être, cette petite fille de 5 ans disparue en 2013 à Clermont-Ferrand et dont le corps n'a jamais été retrouvé. Sa mère et son ex-compagnon avaient fait croire à son enlèvement dans un premier temps avant d'avouer l'infanticide. Une mère qui était entendue aujourd'hui, Jean-Luc Bougeon, Cécile Bourgeon, auditionnée sur le soir du drame. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas dit grand-chose.
Non, elle est loin, la Cécile Bourgeon, bavarde et loquace des premiers jours, celle qui, depuis le début du procès, aime à décrire sa vie quotidienne, sa relation avec les autres, à l'aide d'anecdotes insignifiantes, a aujourd'hui étrangement disparu à la place. On a une femme qui compte ses mots, qui hésite, qui ne se souvient pas. « Je ne sais plus », répète-t-elle sans arrêt au président. Pourtant, c'est de sa fille qu'on parle, de la dernière soirée qu'elle passe dans son lit, après avoir reçu des coups de la part de son beau-père dans la journée. Un coup de genou, oui, c'est ça, il lui a donné un coup de genou dans le thorax. Et aussi une claque sur la joue qui lui fait un gros hématome sur le haut du visage et autour de l'œil. En quelques mots bredouillés, on comprend le calvaire qu'a vécu Fiona ce soir-là et plusieurs jours auparavant, souffre-douleur d'un couple qu'elle gêne par sa simple présence. Cette nuit-là, la fillette vomira plusieurs fois avant de décéder au petit matin. Finalement, le seul moment où Cécile Bourgeon retrouve sa verve, c'est quand il s'agit de se défendre d'avoir porté elle-même des coups à sa fille. « Non, c'est faux, je n'ai jamais frappé mes enfants. » Et la mère de famille de se lancer tout à coup dans une déclaration hallucinante. « Je voudrais m'excuser auprès de Fiona. Elle ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Elle avait toute la vie devant elle et je n'ai pas su la protéger. » Une déclaration à contre-temps qui, pour tout dire, n'avait pas de grands accents de sincérité.
Jean-Luc Bougeon qui suit pour Europe 1 ce procès devant la cour d'assises du Rhône. Vous vous souvenez sans doute de la jeune Mila, harcelée, menacée de mort après avoir critiqué l'islam sur Internet. Elle avait même dû changer d'établissement scolaire, accueillie depuis dans le plus grand secret dans un lycée militaire. Elle vient d'en être renvoyée, Théo Manval, et son père, dans une lettre incendiaire, dénonce la lâcheté de l'institution militaire.
Oui, il se dit, je cite, « effondré par tant de démissions et de lâcheté ». Alors que s'est-il passé? Au moment de l'accueillir et au vu des menaces sérieuses reçues par la jeune fille, ce lycée militaire de Grenoble lui impose, dans un accord qu'elle signe, de renoncer, je cite, « à toute expression publique, plus de messages sur les réseaux sociaux et surtout ne pas donner le nom de l'établissement, là aussi pour ne pas qu'il devienne une cible ». Condition visiblement trop difficile à respecter pour une ado de 17 ans. Dans une conversation sur Facebook, elle demande à un ami s'il est toujours scolarisé sur place, citant le nom de l'école. Pour l'encadrement que nous avons pu joindre, la sécurité des 750 élèves, dont Mila, n'est plus garantie. Elle n'est pas renvoyée, mais doit poursuivre sa scolarité à distance de chez elle. Ce que son père refuse, il écrit donc cette lettre au colonel et proviseur, dénonçant, je cite, « le manque de courage de l'armée après celui de l'éducation nationale qui ont refusé d'accueillir sa fille. Il s'indigne qu'une victime du harcèlement soit, selon ses mots, condamnée à se taire à jamais », mentionne le destin tragique du professeur Samuel Paty. Aujourd'hui, Mila, selon sa famille, n'est plus scolarisée. L'armée assure continuer de travailler avec le ministère de l'Éducation pour lui trouver une solution.
Théo Manval, et c'est un geste fort et inédit de la part d'un footballeur dont on va parler maintenant. Antoine Griezmann a décidé aujourd'hui, au nom des droits de l'homme, de rompre son contrat avec son partenaire, le géant chinois de la téléphonie Huawei, Marguerite Lefebvre.
Oui, dans un bref message publié sur son compte Instagram, Antoine Griezmann évoque les forts soupçons qui entourent l'entreprise Huawei. Le géant des télécoms aurait contribué à mettre en place un système d'alerte pour identifier et tracer les Ouïghours, autrement dit pour aider le gouvernement chinois dans la répression de cette minorité ethnique. Ces soupçons sont intolérables pour Antoine Griezmann qui annonce donc mettre un terme à son contrat d'ambassadeur Huawei. On parle tout de même d'un contrat à plusieurs centaines de milliers, voire millions d'euros par an. C'est un engagement extrêmement fort et inédit selon Carole Gomez, spécialiste de la géopolitique du sport.
Ça me semble particulièrement exceptionnel ce qui est en train de se passer au regard de l'influence de Antoine Griezmann, du montant également qui était un contrat qui avait été conclu depuis 2017. À mon sens, c'est vraiment en train de marquer l'importance que les footballeurs et plus largement les sportifs et les sportives peuvent avoir sur les relations internationales. Ce qui va être vraiment intéressant, c'est de voir comment le FC Barcelone va réagir. Est-ce que d'autres joueurs ou joueuses vont prendre la suite dans d'autres sports, sur d'autres territoires, mais également quelle va être la réponse chinoise à cette décision.
Mais ça n'est n'est pas en tout cas le premier engagement d'Antoine Griezmann. Le footballeur avait déjà pris la parole contre l'homophobie, contre les violences faites aux femmes ou encore très récemment contre les violences policières.
Marguerite Lefebvre, on continue d'ailleurs dans le sport et le football. Un mot de la Ligue Europa, l'OGC Nice s'incline pour son dernier match 1-0 contre l'Apoel Bercheva. Les Niçois étaient déjà éliminés. Ça se passe mal pour Lille qui est en déplacement au Celtic Glasgow et qui perd 2-1. Les Lillois pour l'instant perdent la première place du groupe. Ils sont deuxièmes. Il reste un peu plus d'une demi-heure. Et puis du handball, France-Espagne, championnat d'Europe féminin. Les Françaises se sont imposées 26-25. Enfin, en Formule 1, l'écurie Mercedes annonce le retour du champion du monde, Lewis Hamilton, pour le dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Lui qui avait manqué la course la semaine dernière puisqu'il était touché par le Covid. 22h15, on passe à la météo avec vous, Anissa Haddadi. Un ciel couvert et pluvieux demain.
Oui, dès le début de la journée, hein, Simon, il pleut demain sur quasiment toute la France. C'est une nouvelle perturbation atlantique qui arrive et qui nous apporte beaucoup de pluie, vous l'avez compris. Dans le sud-ouest, ces précipitations seront soutenues. Des Hauts-de-France au bassin méditerranéen, il pleut sur toutes les régions, sans exception. Dans les Ardennes et le massif central, les flocons vont même se mêler à la pluie. Et puis dans l'après-midi, cette perturbation va se décaler assez rapidement vers l'est. Ce mauvais temps va donc gagner aussi les régions méditerranéennes. En fait, sur tous les relais, demain, il neige en plus de la pluie et à l'arrière de la perturbation, donc sur toute la moitié ouest du pays, les pluies sont plus faibles et les températures plus douces. Le vent d'ouest souffle, attention, sur toutes les côtes atlantiques. Demain matin, nous aurons donc toujours des gelées matinales. Pour le matin, c'est stationnaire, hein. Moins 4 à Manosque, moins 2 à Colmar, 1 degré à Marseille, 2 à Clermont-Ferrand, 4 à Paris et 10 à Quimper. Et puis au meilleur de la journée, il fait bien plus doux, vous allez le sentir, avec 4 à Gap, 5 à Strasbourg, 8 à Besançon, 11 à Paris et Marseille, 14 à Niort, 15 à Biarritz et 16 à Mont-de-Marsan pour la maximale.
Merci Anissa Haddadi. Europe 1. Allez, on marque une pause, il est 22h16 et on va se retrouver juste après ces publicités. On va faire le point sur l'actualité boursière et financière.
Europe 1, Simon Rubin.
22h18 sur Europe 1, l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec vous, Didier Hamaud de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Simon.
Wall Street évolue peu, mais Airbnb s'envole pour sa première séance de cotation.
Oui, ça patauge un petit peu sur les indices, hein. Un petit peu de baisse sur le Dow Jones, moins 0,23%, 29 999 points. Le Nasdaq gagne quand même 0,54%, l'indice des valeurs de technologie est à 12 406 points. Mais effectivement, l'attraction du jour, c'était cette arrivée d'Airbnb à Wall Street. Une arrivée en fanfare, et comme prévu, l'euphorie est au rendez-vous puisque le titre a bondi de 112%, $144.71. Une hausse donc de 112%, le titre a plus que doublé par rapport au prix de lancement qui était de $68. Cela valorise le groupe Airbnb à plus de $100 milliards ce soir. C'est un petit peu le délire, hein, à Wall Street. On a aussi le pétrole qui grimpe ce soir à plus de $50 le baril. Ça donne Exxon qui monte de 2,5% à $44. Et aux valeurs de technologie, donc Apple progresse encore d'1,4%, $123.50. Tesla monte de nouveau de 3,6% à $626. C'est plus calme sur Facebook qui est stable. Microsoft, moins 0,6%, IBM, moins 1%. Sur les devises, l'euro reste très ferme au-dessus des 1,21, 1,2150 face au dollar.
La bourse de Paris, elle, a terminé proche de l'équilibre pour la quatrième séance d'affilée.
Oui, pratiquement rien, hein. Plus 0,05%, le CAC 45 550 points. Quatrième séance d'hésitation à Paris, malgré un nouveau coup de pouce de la Banque Centrale Européenne ce jeudi, qui a relevé de 500 milliards d'euros son programme de rachat d'actifs quand même. Peu de choses à signaler sinon donc sur les valeurs. STM en baisse de 1,6% quand même, après 12% de baisse hier, à la suite de la révision en baisse de certaines de ses perspectives financières. STMicro donc en repli d'1,6% ce soir. Et puis le secteur du transport qui recule encore, le groupe ADP moins 1%, Air France KLM moins 2%, Eurotunnel perd aussi 2% ce soir à la clôture.
Exception du jour, le secteur pétrolier qui est remonté dans le sillage du baril de brut.
Oui, logiquement, avec un baril de Brent donc qui retrouve cette barre des $50, une barre un petit peu symbolique, eh bien on a tout le secteur qui en profite avec les valeurs parapétrolières en particulier, Morel et Prom plus 5%, Technip plus 4%, Vallourec plus 2% avec CGG, et puis bien sûr le leader Total qui monte de 2%, le groupe pétrolier est à 37,66 ce soir, le broker UBS vise un cours de 40 € sur Total, donc qui termine en hausse de 2% à la clôture. Sur les autres places financières, c'est assez timide. Francfort, moins 0,3. Amsterdam, moins 0,2%. Madrid, moins 0,6. Londres grappille quand même 0,5%. Et donc le CAC 40 pratiquement stable, 5 550 points.
Merci Didier Hamot de boursier.com et à demain. Il est 22h21 sur Europe 1. C'est le moment de l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Cédric Lagarrigue.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes expert jeux vidéo pour la banque d'affaires Alantra. Si on a eu envie de vous inviter ce soir, c'est qu'il y avait ce matin un lancement événement, il n'y a pas d'autre mot, pour Cyberpunk 2077. C'est l'un des jeux vidéo les plus attendus de cette période de Noël. Vous l'avez essayé, vous? Moi, je l'ai regardé sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de critiques. Est-ce que vous aussi vous trouvez qu'il n'est pas super?
Alors moi, je viens de le recevoir. J'ai pu l'essayer rapidement ce matin avant d'aller travailler. Alors au-delà de cette année, je pense que c'est un des jeux les plus attendus depuis GTA V sur les 5 dernières années. Donc il y avait une attente vraiment folle.
Oui, parce que pour expliquer à nos auditeurs, ça fait 8 ans que l'on fait du teasing sur ce jeu. 8 ans qu'on nous dit... il va arriver. C'est pour ça que ce soir, on a voulu en parler sur Europe 1. C'est vraiment un jeu événement.
Complètement. C'est un des jeux les plus ambitieux donc, de la génération qui se termine et de celle qui commence. C'est pour ça qu'il y a de fortes attentes. En plus, il arrive en pleine transition avec ces nouvelles générations de consoles qui viennent d'être mises sur le marché. Donc, il est un petit peu à cheval sur ces deux générations de consoles. Les consoles PlayStation et Xbox, les anciennes générations, ont 7 ans. Donc, c'est des machines qui sont assez anciennes. Tandis que le PC aujourd'hui, comme où les PlayStation 5 et les nouvelles Xbox sont beaucoup plus puissantes. Donc, on a une vraie différence d'expérience entre les nouvelles générations et les générations anciennes.
Parce que quand je parlais de bugs, justement, c'est ceux qui l'ont testé ce matin sur les consoles du c'est moment. Ça. Sur la PlayStation 4, sur la Xbox One.
Complètement.
Vous êtes déçu, vous aussi, en l'utilisant sur ce genre de plateforme?
Alors moi, je fais partie des privilégiés qui ont une PlayStation 5, donc je n'ai pas rencontré pour le moment ces problèmes. Mais bon, j'ai une expérience de jeu, j'ai joué une heure rapidement ce matin avant d'aller au bureau.
Et donc, vous avez aimé ou pas?
Ce que je vois, en fait, effectivement, il y a quelques regrets, il y a quelques déceptions, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce studio polonais, CD Projekt avait réalisé Witcher 3, qui est vraiment ce qu'on appelle le maître étalon de ce genre de jeu, avec des mondes ouverts. C'est vraiment le maître étalon. C'est un jeu qui s'est vendu à près de 50 millions d'exemplaires. Ils avaient connu les mêmes problèmes au lancement de Witcher 3. C'est un jeu qui s'est stabilisé dans le temps avec des mises à jour et même des versions améliorées qui étaient sorties dans le commerce. Mmh. Et ce qui a permis au jeu, effectivement, de s'établir et de devenir un des plus grands succès derrière GTA.
Ce qui est impressionnant, c'est qu'il a déjà en partie réussi son pari. 8 millions de précommandes. Et je crois que sur les plateformes où on peut jouer et on voit en direct le nombre de joueurs, on n'est pas loin de record.
Alors le record était détenu par GTA 5, c'était 13 millions de joueurs le premier jour, donc là ils sont à 8 millions, ce qui est gigantesque, ce qui montre bien la dimension de Cyberpunk et surtout l'attente qu'il y avait sur ce jeu-là. Maintenant, est-ce qu'ils vont convertir, puisque beaucoup de gens estimaient qu'ils allaient vendre à peu près 30 millions de jeux la première année, ce qui est vraiment gigantesque. Est-ce qu'ils vont y arriver avec la déception des consoles plus anciennes, qui représentent quand même près de la moitié des joueurs auquel s'adresse ce jeu? C'est la grande question. Les prochains mois seront importants.
Oui, le pari est important. Si on parle aujourd'hui de plus en plus des sorties des jeux vidéo, c'est parce que maintenant, depuis, allez, on va dire 5 bonnes années, c'est aussi important qu'un énorme blockbuster américain. Il faut juste se rendre compte de l'importance de ce jeu. On peut le comparer à un Superman. C'est la même importance quand ça sort ces jeux.
Le marché du jeu vidéo est devenu aujourd'hui le premier marché de loisirs. C'est près de 150 milliards de dollars, alors que le cinéma et les films à domicile représentent à peu près 100 milliards. Donc on voit bien le gap qui a été franchi par le jeu vidéo. Et effectivement, c'est un marché qui est en train d'exploser avec toutes ces nouvelles manières de s'adresser aux joueurs, ces nouvelles manières, le streaming, les nouvelles consoles, le PC, le mobile. C'est quelque chose aujourd'hui qui est dans tous les foyers. Il y a près de 2,5 milliards de gens qui jouent aux jeux vidéo.
Et justement, plus que jamais, en cette période de Noël, le jeu vidéo va être le jeu star. Vous parliez tout à l'heure des nouvelles consoles, on en a beaucoup parlé sur Europe 1 ces dernières semaines, la PlayStation 5, la toute dernière Xbox. Elles sont tout simplement introuvables. Allez, on va le dire, sur le marché français, c'est le signe, même si tout ça est très bien organisé par les fabricants, c'est le signe que c'est un carton total et qu'il y avait une véritable attente de la part des joueurs.
Oui, il y a une l'attente est plus forte sur cette génération que la précédente, hein, puisqu'il était beaucoup plus facile de se procurer une console lors des lancements il y a 7 ans. Après, il y a eu le Covid. Effectivement, il y a eu des problèmes de fabrication des consoles. Ils n'ont pas pu aller aussi vite qu'ils le souhaitaient. D'autres secteurs sont touchés, comme Apple avec l'iPhone. Voilà, on a un peu le même problème. Je dirais qu'au mois de février-mars, on devrait arriver à une situation normale et être capable
de... Vous y croyez vraiment à cet argument ?
Ça fait un moment qu'on en parle, notamment en Chine, où beaucoup de pièces détachées viennent de Chine. Il y a eu pas mal de problèmes d'approvisionnement. Donc ça a été un petit peu pour beaucoup de segments, beaucoup d'industries qui ont été pénalisées par le Covid cette année.
Dans cette industrie du jeu vidéo, pour fabriquer justement tous ces jeux vidéo, pour fabriquer ces consoles, on entend de plus en plus un mot, le crunch. C'est-à-dire tous ces gens qui sont... à bout, une sorte de burn-out, parce qu'on les ferait trop travailler, il y aurait trop de pression. Vous en pensez
Alors,
quoi ?
Le crunch, c'est la fin de projet. Ça existe depuis toujours. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le jeu vidéo. Le crunch est là depuis toujours. C'est finir un projet.
On a l'impression que ça se renforce. Tellement il y a d'importance économique. Aujourd'hui, c'était impressionnant de voir l'éditeur de Cyberpunk 2077, son évolution en bourse, par exemple. Il a chuté quand on a eu les premières informations comme quoi il y avait des bugs.
Oui, voilà, ça c'est normal. Non, mais le crunch, c'est la fin de projet. C'est compliqué d'arrêter un jeu vidéo. Il y a tellement de métiers. C'est-à-dire que vous allez avoir des artistes, vous allez avoir des programmeurs, des matheux. Vous allez avoir tous les métiers. C'est difficile d'arrêter une production. À un moment, quelqu'un doit siffler la fin de la récré et puis on ne doit pas avoir de bugs. Donc, c'est effectivement des phases qui sont très intenses. Et on n'a pas réussi encore à trouver de solutions pour mieux organiser ces productions. On va y arriver, je pense, parce que le jeu vidéo reste quand même quelque chose d'assez neuf, d'assez nouveau. On a besoin d'organiser toutes ces choses-là et on va y arriver à terme.
Eh bien, je suis sûr. Un grand merci en tout cas pour tous ces détails, Cédric Lagaric. Je rappelle que vous êtes conseiller jeux vidéo pour la banque d'affaires Alantra. Un grand merci d'avoir été ce soir l'invité d'Europe 1. On se retrouve demain, 22h20.
Et merci Emmanuel Dutheil. À demain. Emmanuel, on vous retrouvera d'ailleurs. La France bouge demain, 13h, avec Elisabeth Assayag. Il est 22h28 sur Europe 1. Dans un instant, on jette un œil aux unes de la presse pour demain. 22h29, on va jeter un œil sur les unes de vos journaux demain. Le Parisien, déconfinement. Castex annonce de tristes fêtes. Pas de réveillon du 31, puisque vous l'avez entendu dans le journal. Couvre-feu instauré de 20h le soir à 6h du matin. Ce sera donc compliqué d'aller faire le réveillon du Nouvel An. En revanche, ce couvre-feu sera suspendu pour le réveillon du 24 décembre. Le Figaro également. Après le confinement, la France sous couvre-feu. Le Figaro qui fait également sa une sur Facebook. L'empire de Mark Zuckerberg menacé de démantèlement. L'autorité antitrust américaine accuse en effet le réseau social d'écraser toute forme de concurrence, de réduire le choix des consommateurs et d'étouffer l'innovation. Et elle veut obliger Facebook à revendre Instagram et WhatsApp. C'est passionnant à lire dans le Figaro. Ouest-France, évidemment, cinéma, théâtre reste fermé. Nouvel an sous couvre-feu. Là encore, c'est la grande actualité du jour et de demain encore. Libération d'ailleurs avec cette une, Jean Castex, visage fermé, pas franchement rigolo. Noël, la culture à les boules, déconfinement au 15 décembre, oui, mais pas pour les cinémas, les théâtres ou les musées. Jean Castex a confirmé jeudi que les Français pourront bien se déplacer à Noël tout en maintenant les restrictions pour le secteur culturel qui espérait pouvoir rouvrir au 15 décembre. Une un peu différente pour La Croix. L'accord de Paris tient toujours sur le climat. Vous savez, on en a beaucoup parlé au moment de la présidentielle américaine, puisque Donald Trump avait fait sortir les États-Unis de cet accord et que Joe Biden, son successeur, veut faire revenir les États-Unis. Eh bien, on apprend dans La Croix que 5 ans après la COP21, et alors que jamais le dérèglement climatique n'a semblé si inquiétant, une centaine de pays sont engagés dans une démarche de neutralité carbone. Et on va avouer qu'en ces temps, ça redonne un peu le sourire. Enfin, une enquête très intéressante dans les Échos sur l'immobilier. Pourquoi les prix grimpent malgré la crise? Les prix sont en nette hausse dans les grandes villes sur un an. Rennes, Nantes, Lyon en tête du palmarès avec une inflation au mètre carré de plus de 10%. Et malgré le confinement, eh bien le nombre de transactions reste proche du record de 2019. Enfin, sur l'opinion, je vous signale ce dessin, toujours très drôle, hein, de CAC, puisqu'on y parle de vaccins. Et on a cet échange entre Macron et Véran. Emmanuel Macron qui demande « Qu'est-ce qu'on fait si les vaccins n'arrivent pas aussi vite qu'ailleurs ?» Et Véran, son ministre de la Santé, de répondre « Comme pour les masques, on dit qu'en fait, ils ne servent à rien. Voilà qu'il ne manque pas de piquant. » Et ça fait un peu sourire en cette soirée. Pas forcément facile. 22h32, c'est la fin de cette tranche d'informations en ma compagnie et vous allez rester toujours bien accompagné avec Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Simon, comment allez-vous ?
Très bien, ravi de vous retrouver. Il y a des soirs comme ça, on est content particulièrement de vous retrouver. Je pense que c'est un de ces soirs-là parce que c'est vrai que les annonces de ce soir du Premier ministre ne sont pas joyeuses et je pense à beaucoup de nos auditeurs qui ne sont pas... Ils sont inquiets peut-être hein, même de devoir passer encore cette fin d'année un petit peu isolée avec ce couvre-feu, ces théâtres, ces cinémas fermés. Donc ça fera du bien, je pense, d'en parler aussi avec vous.
J'espère, en tout cas, et il est certain que c'est une période particulièrement difficile. On se sent privé de liberté. Mais on va essayer de réconforter un peu tout le monde durant ces 2h30 de libre antenne. Je vous dis à tout à l'heure pour le flash, mon cher Simon.
À tout à l'heure.
Europe 1, le 22-22-30.
Simon Rubin.